Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brigois.
Il est minuit 5 et la nuit de l'after continue jusqu'à 5h du matin. Vous savez qu'il y a un beau programme à venir avec encore plein de matchs. Cette nuit à 2h tout à l'heure, Uruguay-Espagne et Cap-Vert-Arabie Saoudite. Et à 5h demain matin, Égypte-Iran et Nouvelle-Zélande-Belgique. Daniel Riolo est là dans le studio américain de l'after à côté du stade. À côté du stade, Walid Acharchour est là aussi.
Bonjour.
Où se jouera du coup ?
Le France-Suède.
Le France, sans doute Suède.
Oui.
Sans doute fort.
Ouais, sans doute fort.
Ouais, sans doute fort.
Ouais, sans doute
mardi. Fort. 23h sur RMC.
On peut enlever les doutes, quoi.
On est à quoi, 90%?
On est à, ouais, sans doute à beaucoup plus même.
Oui, oui.
En fait, voilà.
Ah oui.
Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que la France devrait jouer la Suède, mais qu'il y a un ou deux scénarios assez improbables où ça pourrait être okay, l'Égypte, le Paraguay ou la Nouvelle-Zélande.
France-Suède, c'est voilà. Du gâteau, non?
Mais normalement, c'est France-Suède.
C'est du gâteau ou pas comme match?
Normalement, ouais.
Mais je précise que Jean-Louis Tour est de retour parmi nous. Jean-Louis, t'es là. Hein.
Jean-Louis, est-ce que c'est
sûr,
du gâteau?
Je suis là.
La Suède,
c'est un petit gâteau, un petit. Ouais. C'est pas énorme non plus, ça reste quand même une nation européenne et tout.
C'est pas un fondant chocolat bien.
On a vu des nations européennes pourries.
Avec la petite crème dessus et tout, la boule vanille.
C'est une petite milliardise, avec le café.
Oh non, là t'es dur, c'est pas une milliardise, c'est un peu plus.
Ah, défensivement, si c'est celle qu'on a vue contre les Pays-Bas.
Ça peut prendre valise. Hein.
Ouais.
Disons que se faire éliminer par la Suède, ce serait l'énorme quoi.
Ah, ouais.
Ouais,
ici à New York, en face en plus. Alors on pourrait aller...
gros flop.
Oh non, non.
Un gros flop.
Je peux pas imaginer ça.
Alors quand même, si ils ont Isaac et Gyökeres devant, ils ont deux trois joueurs.
Oui, ils ont quand même.
Mais derrière, c'est.
Nanasi n'est pas là.
Oui.
Problème.
C'est vrai. Comme beaucoup de Strasbourgeois.
Un handicap pour. Voilà pour l'adversaire. Je veux qu'on revienne sur le milieu de terrain. Je veux qu'on fasse une évaluation complète, qu'on parle du Sénégal avant 1h du matin. Mais d'abord, Fabrice Hawkins a vu Jules Koundé. Important. Tout à l'heure, on a commencé à parler des latéraux, Walid. Et évidemment, Fabrice a posé des questions qu'il faut à Jules Koundé. On écoute.
Jules, on a l'impression que vous pouvez marquer à n'importe quel moment, et on en parlait d'ailleurs avec Guy. Est-ce que parfois c'est difficile le contre-coup parce que vous voyez les marées arriver et vous n'êtes pas souvent vous retrouvez dans des situations de 2 contre 1 sur les côtés notamment.
C'est vrai que on a une attaque voilà qui est très prolifique. On sait qu'on peut être dangereux à tout moment. Aujourd'hui ça a surtout été en première mi-temps en transition rapide. Voilà avec la vitesse de Kylian, Ousmane, Michael et Dez. Mais c'est vrai que sur le plan des choses à gommer, voilà, c'est ce relâchement sur le but qu'on prend, où voilà, sans enlever la belle finition de l'attaquant, c'est beaucoup trop facile parce qu'on n'est pas en place. Donc voilà, c'est des choses à gommer dont on va discuter, mais j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça.
Bon, il a pas d'inquiétude.
Oui. Enfin, voilà. Non, on a des inquiétudes.
Juste sur le but que prend l'équipe de France quand même.
Sur lui, quoi.
C'est quand même un truc qu'on apprend à des gamins à 10 ans au foot. C'est concentration automatique. Ouais. Dès que tu as marqué un but, tu reviens. Là, c'est par exemple, je rappelle souvent coach Courbis qui lui dit ça, il ne supportait pas de voir la surfaite du but, tu vois, la surexcitation du but, on célèbre, et puis en fait, parce que là, c'est ridicule, en fait, de prendre ce but dans
la tête. Pour moi, ça va même un peu plus loin, Gilbert, c'est pas juste une déconcentration, c'est un espèce de limite de mépris en mode, c'est bon, tout va être facile, en fait, de ce match. Il y a 2-0, tout va être facile, on n'a même pas besoin de faire les efforts, et c'est pour ça qu'Upamecano se fait avoir, parce que je pense qu'il se dit que le Norvégien peut même pas faire ça.
Ouais, et puis ils sont dans le storytelling d'Embélé juste avant.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est ça, en fait, la réalité. Mais je pense que tu le prends jamais sur une phase à
une. Moi, j'ai pas envie d'être sévère sur cette action. Ce que vous dites reste vrai. Je peux pas vous dire que vous avez tort. J'ai vu également, comme toi, Jean-Louis, et comme dit Walid, le côté, on a libéré Dembélé, et clairement, il y a une déconcentration à ce moment-là. Et oui, c'est sûr que Deschamps et Stéphane vont insister là-dessus en disant, regardez ce qui se passe et tout. Ouais. Mais ça, c'est des petites alertes, c'est des choses
qui sont pas si graves, t'as raison.
Mais je peux pas être sévère là au terme d'un match où t'as gagné facilement. Bon, voilà, il y a une petite alerte, c'est des choses que tu rectifies.
Pour moi, c'est impossible de voir un but pareil en phase d'élimination, quoi. Ça, c'est en fait, même à 2-0, même à 3-0, je peux pas imaginer une déconcentration totale comme ça sur un match qui est très important. En fait, ce but-là montre que finalement, après le 2-0, ce match-là, face à une équipe remaniée de l'autre côté, bah, tu te dis, bon, ok, tu peux le prendre. Mais ça, pour moi, ça n'arriverait jamais dans un match sérieux.
J'aimerais que Jean-Louis, tu nous dises, toi qui étais au stade, ce que tu as pensé du match de Mbappé. On a commencé à en parler avec Samuel tout à l'heure. Mais voilà, raconte-nous, notamment les replis défensifs.
Écoute, moi j'ai vu 20, Alors j'ai un peu du mal à timer précisément, là je suis dans mes souvenirs, mais 20-30 minutes exceptionnelles. Dans l'attitude, c'était exceptionnel. Je l'ai senti survolter, comme s'il avait pris un truc juste avant, il était comme un dingue, il courait dans tous les sens, il tentait des choses, à l'image d'ailleurs de la première action quand il trouve sur la barre à la première minute. Oui. Il a initié les pressings et truc, je trouve, notable par rapport au match précédent, dans le jeu collectif, il était très juste. C'est-à-dire que les passes arrivaient dans le bon timing, il respectait le jeu à chaque fois, il tentait pas des frappes forcées comme il a pu le faire d'ailleurs en deuxième période, mais là pendant ces 30 minutes là il était vraiment dans la zone et tout ce qu'il faisait, je trouvais ça bien. D'ailleurs Sam en a parlé de l'appel à vide qu'il fait sur le but de Dembélé, il sert Dembélé à un autre moment aussi sur un autre de ses buts, donc il a privilégié le collectif à ses stats individuelles et ça j'ai adoré. Par contre il s'est un peu éteint par la suite et il a eu un peu de mal à se montrer. Bon après ça peut se comprendre aussi, hein, il y a d'autres facteurs, mais vraiment les 30 premières minutes j'ai adoré.
Gestion en deuxième mi-temps, et puis il voulait aller chercher son but par rapport à cette bataille des meilleurs buteurs qui est très très convoitée. Mais moi je suis d'accord avec Jean-Louis, la première demi-heure, tu peux même rajouter, il y a un moment donné un service sur Manu Koné, dans une remise, dans une dans un 1-2, quand Mbappé sent le football comme ça, c'est qu'il est en très très grande forme. Il y a là un pressing gagnant sur Désiré Doué aussi, et ouais, il a été très très connecté. Il faut savoir que sur le tir sur la barre, la balle est touchée, hein, par le gardien. C'est pas une barre directe, hein, donc elle est cadrée. Ça doit faire but. Mais ouais, c'est du très très bon Mbappé, et c'est le Mbappé qu'on a envie de voir sur cette Coupe du Monde.
Daniel, ton avis sur Mbappé ?
Moi, je le vois totalement épanoui. Je le vois très bien. Moi, j'avais aucun doute, de toute façon, sur sa réussite dans cette Coupe du Monde. Ça fait quoi ? 3 mois qu'il ne pense qu'à ça ? Quand il a compris que la saison avec le Real était cramée, donc on parle de l'élimination en Ligue des Champions, qui commence à dater un petit peu quand même. Je sais que derrière, il n'avait plus qu'une chose en tête, c'était équipe de France. Parler très régulièrement avec ses potes, échanger, les mettre derrière lui en mission, créer cet effet de bande, cet effet de groupe, parler avec le sélectionneur de comment ils allaient être installés. Il a même œuvré pour qu'il y ait les fameux trucs. Tchouaméni a fait allusion, là, je vais aller prendre un truc de bain froid. Oui. Mbappé a fait en sorte qu'il y ait de la cryo partout où partout où ils se déplaceraient.
Bain froid, c'est pas la cryo.
Bah, si c'est la cryo.
Non, mais faut dire, on joue sur les mots, mais
pas de la récupération, quoi.
Normalement, il y a ça tout le temps. Pourquoi il fallait qu'il insiste pour avoir ça?
Installé dans les hôtels et tout, ouais. Donc il a demandé. Mais c'est pour dire qu'il suivait tout. Il avait la façon dont les joueurs.
Il s'est mis en mode organisateur.
Voilà.
Contre l'Irak, il était à deux doigts de passer le balai pour éponger le terrain.
Et donc, moi, je te dis que cette mission, elle est dans sa tête depuis la fin de la saison du Real, qui dans sa tête est arrivée tôt. Il a économisé son corps, clairement. Ça peut ne pas plaire au Real. Moi, perso, je m'en fous, parce que vu ce que le Real lui a fait sur son histoire de genou, déjà, à partir du moment où là, je pense que lui a été, cette année, a été nickel avec le Real. Ce que n'ont pas été d'autres joueurs, qui ont plombé la saison clairement, en faisant virer Xabi Alonso et tout. Lui, je pense qu'il a été nickel.
Avec Arbeloa, il n'a pas été nickel avec Arbeloa. Mais après, c'est un autre débat. Oui. Il a été nickel avec Xabi Alonso.
Ouais. Je pense que derrière, la saison était finie pour lui. En plus, avec tout ce qui s'était passé physiquement autour de son genou, il a été obligé de mentir en plus là-dessus. Enfin, bref, passons. Il s'est mis en mode Coupe du Monde très tôt dans la saison. Et je le répète, parler aux autres, échanger énormément avec les joueurs de l'équipe de France pour créer cet effet mission que moi je constate quasiment à chaque sortie.
Mais maintenant, moi je suis persuadé qu'avec ce changement de logiciel, ce qu'on appelait de nos voeux, les gens le critiqueront moins. Parce que si ça se passe mal, avec le contenu qu'il y a, le fait de vouloir faire briller les autres, moi je vois des scènes sur les buts de Dembélé, c'est pas fake du tout. Il y a une vraie volonté de faire briller Ousmane Dembélé parce qu'il est conscient que Dembélé peut l'aider à aller chercher cette Coupe du Monde. La même chose avec Olise, ce que je ressentais moins sur la dernière année au PSG, sur les premières années au Real Madrid, où on est dans une guerre d'ego avec le moi-jeu. Et là, moi, sur ce match-là, je ne le ressens pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en disant « Ah, mais c'est bon, vous retournez déjà vos vestes sur Mbappé ». Non, pas du tout. Mbappé, s'il fait du Mbappé, le Mbappé qu'on aime, eh ben on le dira, on sera très très content. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie tendance. On a dit « Ah, c'est l'Irak ». Et non, justement, moi, l'Irak, la Norvège, sur des petits matchs, que Mbappé puisse le faire contre le Bayern Munich à certains moments, c'est plutôt logique parce que c'est des très gros matchs. Donc heureusement que tu as le bon état d'esprit. Mais ce qu'on reprochait aussi à Mbappé, c'est que par moment, eh ben, il pouvait balancer des matchs. Et là, le match contre la Norvège, le match contre l'Irak montre que c'est vraiment le chef de file. C'est lui et sa bande, c'est lui et ses copains, mais qu'il peut se mettre au service des copains aussi. Et ça, moi, c'est une très très bonne chose. Et ça va avec les dernières, la dernière communication qu'il a eue avec Tchouaméni dans The Bridge, avec son petit frère
et le
parisien.
Et le contact permanent avec Dembélé, qui, ne l'oublions jamais, est son ami. Et quand on dit Dembélé, ça allait pas, machin et tout, Mbappé était là également, et est là, est là pour le mettre à l'aise de A à Z et pour qu'il s'épanouisse aussi dans cette Coupe du Monde.
Et si les deux peuvent se nourrir,
il y a véritablement une grande générosité chez Mbappé.
Si les deux peuvent se nourrir avec Dembélé qui lui montre la voie du collectif par rapport à ce qu'il a appris avec Lucien Riquet et que Mbappé peut le désinhiber du costume qui était peut-être un peu trop grand en Coupe du Monde avec l'équipe de France, l'équipe de France en sortira grandie.
Et dès le début, il l'a défendu en conf, oui, il en a parlé. Non, on est véritablement face à un grand Kylian Mbappé.
Pour l'instant, c'est du
tout. On peut pas dire le contraire.
Pour l'instant, c'est du tout bon. C'est du tout bon.
Exactement.
Redouane est avec nous, supporter des Bleus, dans notre studio. Salut.
Salut.
T'es venu, tu vis ici? T'es venu pour la Coupe du Monde?
Non, je vis aux États-Unis depuis 8 ans et ça fait 2 ans que je suis à New York.
Bon. T'as vu le match?
Bien sûr.
T'entends Mbappé, Dembélé. C'est un after dithyrambique ce soir.
Ouais, c'est dur. En même temps, c'est dur de juger ces matchs-là, étant donné qu'il y a eu beaucoup de changements de la part de la Norvège. Mmh. Copie correcte. Moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude d'Mbappé, vous en parliez. J'ai aussi beaucoup aimé Koné au milieu.
Ah, on va en reparler, d'ailleurs.
Ouais, beaucoup aimé. Et ensuite, la seule chose, la seule note un peu, le seul point noir, c'est le nombre d'occasions qu'on a concédées. Je trouve qu'on a concédé pas mal d'occasions contre une Norvège qui a beaucoup fait tourner. Et après, un bon point aussi, c'est le pénalty sauvé par Maignan. J'espère que ça va lui redonner confiance. Mmh. Étant donné son début de compétition qui n'a pas été fou.
On va reparler
sur les tirs au but. Maignan, il est toujours très, très solide.
Ouais, bon,
après, il est très, très mal tiré.
Oui, c'est vrai, très, très mal tiré. Ah, et on passe encore une course d'élan catastrophique.
Mmh. Alors que quand le mec est arrivé au ballon, le Norvégien.
Oui, toi, t'étais convaincu qu'il allait mettre une boîte.
Ah, je me suis dit, allez,
t'es Norvégien. T'es dit, c'est un Norvégien,
il va nous la faire à l'ancienne, ouais, bim, la grosse frappe sous la barre. Eh non, il nous a fait la petite course de merde et la frappe mollassonne.
La course d'élan fashion, là, pour les réseaux sociaux, là.
Moi, j'aimerais remettre.
La course d'élan Insta.
On a fait une petite introduction avec Samuel tout à l'heure. Moi, je ne vois pas Koné sortir de l'équipe. En fait, il y a les dynamiques qui s'installent au fil des matchs. Il a joué le deuxième match,
pour
il
le
a
coup,
été
c'est
bon.
C'est pas pour me déplaire. Hein.
Il a joué le troisième match, il a été
Koné,
bon.
C'est...
Là, il va falloir lui expliquer. À Koné, tu joues pas le 16e de finale. C'est peut-être au détriment de Rabiot que ça va se faire.
Moi, j'y crois pas une seconde.
Toi, tu crois qu'il sera pas là?
À moi, demain.
Qu'on remet Rabiot, Tchouaméni.
On peut parier les restos de la semaine, si tu veux, Gilbert. On y va, hein, on les parie. Rabiot, Tchouaméni démarre contre la Suède.
Rabiot, Tchouaméni?
Ouais, démarre. Ah, je peux parier les restos de la semaine, j'ai aucun problème là-dessus.
Ah, là, le truc, c'est que forcément, même si j'ai un doute, j'ai envie de le tenter.
De quoi?
De le pari.
Ah, vu le prix des restos à New York, on peut le tenter.
C'est-à-dire que Manu Koné, s'il démarre, tu me payes les restos.
Ah, mais c'est pas comme ça que tu l'as proposé. Ah, tu veux qu'on fasse l'échange?
Ah, bah oui.
Attends, mais moi, au tennis, je t'ai proposé un contre 10. On peut faire un resto moi et toute la semaine toi, vu que t'es sûr de toi.
Ah, d'accord. Ah, oui. Donc, en fait, oui. Donc, si Manu Koné démarre. Ne démarre pas. J'ai le droit à un resto.
Et si Koné démarre,
je vais être dans l'histoire. Surtout, je reviens à New York, donc je vais être dans l'histoire.
La semaine.
À
la semaine.
Non, Jean-Louis, qu'est-ce que t'as à faire avec l'histoire? Pourquoi il croque sur mes paris, celui-là?
Je peux parier, je peux participer au pari aussi.
Mais peut-être, il veut pas de toi, Walid. Là, il veut de moi.
Walid, il a dit vous.
Alors, oui, vous en général. Tous les gens présents à l'antenne.
Je vais aller loin. Tous les gens à l'antenne, c'est-à-dire que tous les gens à l'antenne me doivent un resto dans la semaine. Si Manu Koné démarre pas.
Et par contre,
Par contre, si Manu Koné démarre, je vous dois 12 restos.
Écoute, moi, je suis pas vraiment sûr de mon coup, mais ouais. Ça se tente.
On y va.
Parti,
Tu prends. Jean-Louis, tu prends?
Je prends.
D'accord, ok.
Je précise que Jimmy Brown.
Non, ceux qui sont en émission. Après, ça suffit, j'ai pas non plus. On va pas envoyer le mois que RMC me paye dans les restaurants aux États-Unis quand même. On va se calmer quand même.
Alors moi, je prends et je vais missionner tous les gens qui parlent au staff des Bleus pour pousser pour cette idée. Je pense qu'il faut ménager Rabiot en 16e pour l'avoir plus frais après.
Jean-Louis, toi, t'es plutôt.
Hors blessure, les gars. Hors blessure, par contre. Je mets l'astérisque. hors blessure.
Oh, okay. Ah oui, des astérisques maintenant.
On l'entend, on l'entend.
C'est important, c'est important.
Non, t'arrêtes.
C'est important.
Mais Jean-Louis, t'es plutôt de mon école, là. Moi, je le vois pas sortir de l'équipe, ou t'es plutôt école Walid qui remet les deux autres.
Moi, je regarde le truc de façon très pragmatique quand même. Il a commencé 2 matchs sur 3. Comme les autres en fait. À l'arrivée, tu fais le bilan des 3 matchs. Ils ont commencé autant de matchs chacun. Alors il y a pas le prestige du premier
Pourquoi
match. Le Sénégal, c'est censé être ton équipe type.
Non, non, Rabiot il est démarré.
Pour le ménager, parce qu'il a fait les 2 matchs d'avant. Donc voilà, c'est.
Comment ça pour ménager les 2 matchs d'avant? Rabiot il a joué le premier match et après on a vu deux fois Koné.
Non, l'Irak après.
Oui, mais c'est Tchouaméni qui a été ménagé contre l'Irak. Ils ont joué exactement le même temps de jeu. Les trois ont fait 2 matchs. Donc en soi, en temps de jeu, ils sont à égalité. Et à l'arrivée, il n'a pas démérité du tout. Je sais pas. Moi, je suis pas aussi convaincu que Koné.
Non, mais les gars, en fait, le problème, c'est que moi, Manu Koné, je l'ai déjà répété, mais j'aime beaucoup le footballeur et tout ce qu'il fait avec l'équipe de France m'intéresse énormément. Et je crois que dans l'équipe, ils l'ont expliqué. Il a un rôle très important. Voilà, et de toute façon c'est pas anodin dans un secteur aussi concurrentiel que le milieu de terrain d'avoir autant de minutes que les deux. Maintenant, quel était le match le plus important? Quelle était la plus grande
adversité? Le Sénégal.
Donc l'Irak et la Norvège B. Moi je reste persuadé, si je suis dans la tête de Deschamps.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Pourquoi?
L'adversité c'était aussi la Norvège. C'était pas censé savoir qu'il allait mettre l'équipe B.
Oui, d'accord, mais
parce
en
que
fait,
tu joues la première
oui,
place.
Oui, mais en fait Rabiot, à partir du moment où t'as installé la rotation, moi je pense que là où le débat est biaisé, c'est que Tchouaméni est préservé sur le deuxième match avec la blessure. S'il n'y a pas la blessure de Tchouaméni, en fait, on aurait beaucoup plus d'indications sur la suite.
À partir du moment où
Tchouaméni sort et que c'est Rabiot Koné, en fait, le troisième match, tu dois aussi soulager Rabiot. Donc, en fait, tu en reviens à voir Koné deux fois. C'est ça, en fait, l'analyse. Et moi, je suis persuadé que, la logique, le côté favori, je pense la compo favorite, c'est de se dire, là, on va revenir à ce qu'on a fait sur le premier match. En plus, on a gagné 3-0. Merci Manu, parce que Manu, quand même, dans une compétition comme la Coupe du Monde, t'as joué 2 matchs sur 3. Bah là, on va revenir à quelque chose de naturel. Par contre, s'il y a un suspendu, s'il y a un pépin, et si on doit repasser à 3, Manu, tu es le premier en sortie de banc. C'est comme ça que je vois les choses. Et surtout que Rabiot, Tchouaméni, ils ont fait un super match contre le Brésil aussi, avant la Coupe du Monde. Et connaissant le Deschamps, on l'a fait avec Koundé.
Sur tout le raisonnement, je suis d'accord. Sauf sur un point, c'est qu'il y a très peu d'écart entre eux, en termes de niveau. Entre les titulaires, le duo titulaire et Manu Koné, il y a très peu d'écart. Donc ça, à mon avis, l'état de forme, même ce qu'il peut sentir sur un entraînement de veille de match, peut suffire
à
bousculer la pseudo-hiérarchie.
J'ai un autre argument, c'est que pour lui, au vu des latéraux et de Théo Hernandez, Rabiot est plus défensif que Manu Koné.
Ouais, je suis d'accord avec
toi. Moi, pour moi.
C'est pour ça que je prends le pari, parce qu'il y a matière à croquer.
Ouais. Mais Manu Koné est plus fragile
défensivement et plus intéressant offensivement dans le changement de
Rabiot te propose un équilibre qu'il a l'habitude de
autre
faire.
Autre argument qui va dans mon sens.
Dans les clubs où il joue en Italie,
l'adversaire.
Même en 2022.
Prends
en compte l'adversaire aussi.
Oui.
Si tu joues la Suède. Bon, c'est pas l'Argentine ou l'Espagne, tu vois. Donc
oui, mais tu dois impulser en fait la nouvelle, le nouveau tournoi, et tu l'impulseras avec Rabiot. En tout cas, moi demain Manu Koné joue, je suis très content. Mais là je suis moins content en fait au passage avec le Paris. Je serais un peu moins content de voir Manu Koné. Mais c'est comme ça que je vois les choses.
Moi, je pense que le staff, s'ils doivent ménager un des deux milieux, il faut surtout pas dire qu'il est blessé. Comme ça, on gagne notre pari. Oui.
Et en tout cas, merci de m'avoir emmené dans ce piège à loup, Gilbert.
avec ce débat. Redouane, tu mets qui, toi?
Moi,
la Suède.
Je suis un peu de l'avis de Walid. Je pense que Deschamps va pas prendre de risques. Personnellement, j'aurais mis, je pense, Koné Tchouaméni.
Donc t'es pas de l'avis de Walid vu qu'il est Rabiot lui.
Ah, non, personnellement, je pense que Deschamps va.
C'est une affaire de fourchette.
Et bon, je suis présent, donc je pense que l'invitation compte aussi.
On va réfléchir.
Dans un instant, on évalue les autres. Il y a certains joueurs dont on n'a pas parlé. Doué, Barcola, par exemple, les rentrants. On a vu Mateta ce soir. On n'a pas parlé d'Olivier. T'as raison. On va en parler dans quelques instants, évidemment. Et puis on dira un mot avant 1h du matin du Sénégal, qui a mis une belle valise à l'Irak. Et puis on dira également ce qu'on pense de ce qui se passe autour de Bielsa en équipe d'Uruguay, qui se heurte à une fronde des joueurs, à une fronde des médias. Bielsa un peu seul au monde avec l'équipe d'Uruguay avant le match de cette nuit face à l'Espagne. C'est au programme de l'After dans les minutes qui viennent. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 26 en France, il est 18h26 dans le studio américain de l'Afterfoot. Daniel Riolo est là, Walid Acherchour est là, Jean-Louis Tour est toujours au stade à Boston. Si vous n'avez pas encore vu notre magnifique studio avec vue sur la skyline de Manhattan, et ben connectez-vous sur la chaîne YouTube de l'After, allez sur YouTube, vous verrez ça.
Et c'est beau.
Vous serez transposé à New York, aux États-Unis, où donc nous on est encore plein d'énergie puisque pour nous il n'est que 18h26 et la nuit d'after continue en heure française jusqu'à 5h du matin. Bon,
ah, je crois même 6h cette nuit.
C'est 6h ou non 5h cette nuit? 6h cette nuit ou 5h?
Je ne dis pas que des bêtises.
6h cette nuit, c'est bon. Alors, Olise, effectivement, on n'en a pas parlé, il y a quelques joueurs qu'il faut qu'on évalue. Comment jugez-vous le match d'Olise ce soir qu'on a un petit peu moins vu?
Moins bien. On doit parler en termes de highlights et de nombre d'apparitions à l'écran. Oui, Olise a été moins en vue que les deux autres matchs. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a envie de le critiquer pour sa prestade ce soir? Pour ce qui me concerne, non. Olise est là. Il reste pour moi l'un des patrons, le playmaker de cette équipe. Donc, c'est tout. J'ai pas grand chose à ajouter. Mais le constat, il est implacable. Oui, on l'a moins vu.
Non, mais joueur très, très important. Et on le sait. Hein, quand ça va s'intensifier, il a quelque chose dans les crampons de spécial pour nous faire gagner la Coupe du Monde. Maintenant, il faut avoir aussi un devoir de réalité et d'honnêteté contre l'Irak. Il lance son match sur la deuxième mi-temps comme contre le Sénégal, et là je trouve qu'il traîne un peu la jambe sur la rencontre. On l'a très très peu vu, c'est un peu le mauvais côté d'Olise. Moi je suis un grand fan du joueur, mais parfois il se lève un peu tard quoi pour le sortir du lit. Après quand il sort du lit il fait des grandes choses toute la journée, hein, il fait tout ce qu'il a à faire. En réunion il vient un peu à 10h20 10h30 quoi. Après bon, il te règle toute l'histoire, hein, c'est-à-dire que il te fait il te fait le boulot, mais par contre pour le sortir un petit peu, des fois s'il a pas envie, il a pas envie quoi, Michael. Donc c'est un petit peu son péché mignon. Mais on doit, quand on critique Dembélé ou quand on critique Doué ou quand on critique Mbappé, il faut aussi le faire avec Olise. Mais comme l'a dit Daniel, on a tellement espoir en ce qu'il peut réaliser sur le terrain que on le passe un peu plus sous le tapis. Donc mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu un grand Olise aujourd'hui.
Jean-Louis, ton avis?
Non, bah rien de plus, je suis d'accord avec vous. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut faire des matchs où les trois devant sont énormes en
oui.
même temps?
Oui, voilà, c'est une bonne question.
Je me pose cette question parce que je me dis aussi que pour que Dembélé en profite autant, bah, il faut aussi que les deux du milieu, donc Mbappé et Olise, attirent
tout
beaucoup
l'attention.
Tout le monde
ne peut pas croquer dans le même gâteau.
Bah, j'ai l'impression, enfin après, peut-être je vais me tromper hein, sur
oui,
les matchs qui arrivent, mais pour l'instant, j'ai cette impression-là.
Brille, quoi, en quelque sorte.
En tout cas, là, je me suis fait la réflexion sur ce match, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans l'axe, beaucoup de densité, parce que je pense qu'ils avaient peur du duo Mbappé-Olise, ce qui était normal après les deux premiers matchs, et ça a laissé pas mal de liberté à Dembélé sur son côté. Il a pu faire ses fameux 1 contre 1 et marquer. Comme ouais. je pense aussi que sur les matchs précédents, et bah Dembélé c'était le ballon d'or, il y avait une grosse attention sur lui, et donc bah, ça ouvrait un peu l'axe à Olise.
Voilà. Non seulement je suis d'accord avec toi, ouais. mais en plus on a également eu la réponse qu'un Dembélé actif sur son côté droit, puisque certains disaient peut-être qu'il ne sait plus faire le 1 contre 1, peut-être que dans cette position axiale il va moins marquer. Or les buts de ce soir sont tous venus réellement dans une position, on va dire, de côté droit quoi.
Et au passage,
soit il rentre à l'intérieur avec le pied gauche, soit il est parti avec le pied droit.
Il n'y a pas de différence sur les 1 contre 1, il n'y a pas de différence de Ousmane Dembélé. C'est je fixe, je
ouais,
frappe.
Ouais.
Il y a pas de, il ne passe pas avec le crochet comme oui, comme à l'époque.
Il passe pas, mais j'appelle ouais. ça quand même une élimination.
Bien évidemment. Bien évidemment. Il contourne
face à toi. Mais il est évité.
Mais sur le fait, si on se posait la question, est-ce qu'il peut être dans la percussion comme avant, etc. Il s'adapte là sur et il a cette efficacité sur le match. Mais je trouve ça très vrai ce que dit Jean-Louis. Et je m'étais pas fait la réflexion, c'est que la force après ce premier tour, c'est que si tu veux caler Mbappé. Bon courage, parce qu'il va falloir derrière regarder Olise ou Dembélé et ainsi de suite. Et ça, c'est très très bien pour l'équipe de France, parce que la force, elle est diluée, et que on peut avoir une deuxième partie de compétition où un jour ça va être le duo Dembélé Mbappé, un jour ça va être Olise Mbappé, ça peut être aussi Bradley Barcola, parce qu'il va falloir
on va
en parler.
On en parlera. Il faut qu'on laisse Jean-Louis parce qu'il est en train de se faire virer du stade.
Et ça, c'est une force.
Et oui.
C'est ça.
Et
c'est ça.
On peut pas faire un after en entier au stade alors.
Bah là, c'est la première fois là depuis le début de la Coupe du Monde qu'on me dit c'est 90 minutes la règle après le coup de sifflet final, donc voilà. Il faut y aller. Et Barcola, ouais. moi j'aime beaucoup ce qu'il propose, hein, oui. depuis le début de la Coupe du Monde. Hein.
Ah oui. C'est le grand gagnant de la phase de coupe.
Comme je vais partir, honnêtement,
et
le Je pense que Doué est un meilleur joueur que lui intrinsèquement, mais ce qu'il apporte,
moi,
et son profil,
Doué,
c'est excellent. Ah oui, je suis d'accord.
Une, voilà. Et c'est une Coupe du Monde.
Ciao,
pour lui, je pense. Je pense que c'est une Coupe du Monde pour lui.
Dans un instant, on parle de Barcola et de Doué. Le 32-16 est ouvert. Le Sénégal. Ah non, on peut continuer, me dit Jimmy. Bon, on continue. Il n'y a pas de pub, en fait. Il n'y a pas de pause fraîcheur.
Okay. Il nous a fait la feinte spéciale Germain.
Exactement.
Ah, il a fait ça aussi.
Ouais, il fait la pub et tout. Et bon, on fait autre chose. Et puis il dit, mais non, on continue. Je ne préviens pas.
Pub, pas pub. Entre la pub et l'animateur, il y a un manque d'automatisme entre la pub et l'animateur.
Est-ce que c'est Jimmy qui décide d'envoyer les pubs? Qui décide en fait?
C'est Jimmy le boss.
Ah d'accord.
Mais là, comment ça se passe là? Pourquoi il y a un faux départ? Explique-nous un petit peu.
Alors il y a un faux départ parce qu'en fait, j'explique. On a des découpages, ce qu'on appelle les découpages.
Okay.
Le découpage classique, c'est pause fraîcheur à la 15e minute, cooling break à la 30e et pause Kit Kat à la 45e.
D'accord.
Mais là, quand on est après minuit, des fois, ça peut devenir pause fraîcheur à 20 et pause cooling break à 40.
Donc, il faut s'adapter entre le avant minuit, après minuit.
Voilà, mais des fois, on est en retard. Voilà, bon bref.
Parce qu'on a trop parlé, parce que nous, on a trop parlé.
Donc, il faut faire preuve d'intelligence situationnelle.
D'accord.
Voilà, et je veux dire que Nicolas Jamin et moi, on est maîtres en intelligence situationnelle.
Et vous avez bien raison.
Surtout Nico, bien sûr.
Oui, surtout, Nico, pas tous les jours.
Donc Barcola.
Barcola, non, pour moi Barcola est le grand gagnant de cette phase de poule. Je pense que c'est une Coupe du Monde pour lui, parce que dans son profil, dans l'adaptation qu'il peut avoir aussi au football proposé par Didier Deschamps.
Encore faut-il qu'il soit titulaire en fait.
Sur le changement de rythme, non, mais que ce soit en démarrant ou en sortie de banc, moi je pense que Bradley Barcola va avoir un grand rôle. Tu vois, si on doit me demander qui tu préfères entre Cherki et Barcola, moi je préfère Ryan Cherki. Mais sur le début de la Coupe du Monde.
Pas, oui.
Ah, mais sur le début de la Coupe du Monde, sur le 12e homme, sur le joueur qui peut faire la différence, Bradley Barcola met une tempête à Ryan Cherki et même à Désiré Doué sur le terrain, parce que changement de rythme, parce que appel en profondeur, parce que rôle différent par rapport à Mbappé, Olysee, Dembélé, parce que je pense que se taper un Barcola pendant 90 minutes dans ce football de sélection, c'est pas simple du tout. Et on a une vraie gâchette, on a une vraie balle avec Bradley Barcola. Il va falloir
toutes les prises d'espace. Après, on peut pas.
Avec ses défauts et ses qualités, mais il est positif.
Néanmoins, je suis en train de dire des choses positives, au moins 80% sur ses entrées, ses apparitions, ce qu'il fait sur le terrain. Mais mes yeux restent toujours un petit peu frappés parfois par une conclusion d'action encore un peu déficiente. Ça, j'ai encore, sur certaines actions, un petit peu du mal avec le geste final de Barcola. Mais je répète, c'est pas ce que je dis quand je le vois jouer avec le PSG, que là, pour moi, il est devant Doué. J'ai vu Doué, sur certaines actions, se perdre dans des gâchis, des tentatives un petit peu superflues. Il a marqué son but de la tête. Ça va
sur un très beau service de Barcola.
Voilà, exactement.
Un très beau travail.
Pour moi, Barcola est devant, malgré les deux, trois lacunes qu'on pointe régulièrement.
Et en fait, à chaque fois, on arrive à le lancer. On arrive à trouver les schémas de passe pour le lancer. Il y a notamment une grosse occasion où Mbappé fait la bonne course. Et là, Barcola, il sent pas le coup. Il doit la jouer en retrait. Il s'en mêle un peu les pinceaux. Mais contrairement à Doué, en fait, si on doit comparer, Doué a une palette beaucoup plus globale. Pour moi, il a plus de talent que Barcola. On va pas encore une fois le répéter. Mais en fait, dans ce système-là, en équipe de France, je trouve qu'il fait trop la toupie, Doué. En fait, il prend le ballon et il tourne sur lui-même. Et en fait, ça ralentit le jeu.
Le retour du tourniquet, tu te souviens, Verratti?
Ah, le tourniquet.
Non, mais tu sais, il tourne un peu sur lui-même. Ok, je prends le ballon, je garde le ballon. Ouais, mais après,
c'est pas tellement un tourniquet, c'est plus un ventilateur.
Oui, c'est vrai.
Parce que ça va plus vite.
Ouais, ça ventile.
C'est
vrai, ça ventile. Sauf qu'en fait, face à un bloc bas, il fait pas les courses en profondeur. Alors que Bradley Barcola, constamment, c'est appel contre appel. Et ça étire énormément et ça ouvre des solutions et une variété dans l'animation offensive de l'équipe de France bien différente. Et ça, pour moi, ça peut nous aider sur la suite de la compétition.
Cherki a joué 25 minutes. Est-ce que vous l'avez vu?
On l'a très peu vu. Très peu vu, mais c'était moins.
Pour l'instant, le Cherki de ce début de Coupe du Monde.
Il est dans le labo, là, pour l'instant.
Et pour moi,
il est dans l'étui.
Je vais pas dire inexistant, ce serait 100% sévère, mais à 80% inexistant. J'ai pas vu grand chose de positif. Il lui reste le plus beau de la compétition à venir pour, quand il y aura des entrées, nous montrer sa classe. Mais pour l'instant, on peut pas le mettre en avant.
Ouais, même ça.
Oui,
ça,
et puis vu le rendement des quatre.
Oui. Non, mais de toute façon, moi, là, je parle juste en sortie de banc parce que le rôle de Cherki, c'est en sortie de banc. Et pour l'instant, j'ai trouvé que le rythme était pas assez conséquent pour Cherki. On en a déjà parlé contre l'Irak. Je pense qu'il doit aussi assimiler ce rôle de remplaçant. Peut-être qu'il avait d'autres velléités sur la suite de la compétition. Il a loupé le premier virage, Ryan Cherki. Maintenant, connaissant bien le joueur, il va être animé par, enfin je souhaite, en tout cas j'espère, mais il nous l'a déjà montré, animé par les grands, par les blockbusters. par les gros matchs, par les grosses rencontres, et ça, son génie, sa qualité de passe peut nous faire du bien. Il aura son image. Moi, je suis persuadé qu'il aura.
Il y aura un moment Cherki.
Le moment Cherki qui nous sort un peu de la merde. En tout cas, il est là pour ça. Et je suis persuadé que plus ça va monter en puissance, plus Cherki va faire une entrée impactante.
Il sera déterminant.
Ouais, je pense.
Parce que si Cherki se met en plus à faire des entrées déterminantes, mais qui va pouvoir arrêter les Bleus ?
En tout cas,
est-ce que c'est déjà arrivé qu'à ce point-là, il y ait une espèce de conviction chez autant de gens qu'une équipe doit être championne du monde et qu'au final elle l'est ?
Non, championne du monde, je sais pas moi.
Parce qu'il y a énormément de gens qui le pensent quand même.
Hein. Remontons l'histoire.
On a du mal à voir quelle équipe.
Non, attention.
Moi, j'ai un exemple en tête.
Ouais.
Mais franchement, on a du mal à comprendre quelle équipe peut battre ces Bleus.
Oui, mais attention. Moi, j'ai dit que les latéraux, ça pue.
L'Espagne, l'Argentine,
Angleterre. Pour moi, t'as le gagnant dans les quatre. Maintenant, ouais. Dans ces quatre équipes-là. Moi, je pense que la France, offensivement, peut gêner tout le monde, en fait. Mais après, de toute façon, il y a beaucoup d'équipes où c'est du 50-50. Mais l'équipe de France, oui. Moi, j'ai des ondes positives.
Le Brésil en 2002, c'est écrit dès le début et ils y arrivent.
Attention, moi, pour moi, l'Espagne reste la favori hein, de la compétition avant le tournoi. Maintenant, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on les a rencontrés, on a perdu contre eux là récemment en Ligue des Nations et au dernier Euro. Mais par contre, j'ai un mood très positif.
Tu te souviens des matchs les matchs contre l'Espagne dont tu parles, ils sont toujours assez spectaculaire et effectivement tu subis. On les a jamais joués en revanche dans un schéma comme on a maintenant.
Si on les a joués en Ligue des Nations, il y a 4 devant. Olise en 10, Dembélé c'est son match post-Ligue des Champions, post-finale de Ligue des Champions.
Est-ce
où il joue à droite,
match où ils prennent une tempête et où ils sont menés et
5-1 et reviennent.
Cherki
la rentrée de Cherki
d'un coup et ça termine à
5-4. Ouais. Mais avec une défense Clément Lenglet Konaté.
Ce match-là
et Kaloulou sur le côté.
Voilà. Ce match-là quand même montre que parce qu'il y a également l'Euro 2024 où dans le jeu tu te fais balader, mais à chaque fois tu peux leur faire beaucoup de mal. Alors que on adore le jeu de l'Espagne, que nous perso on est fan, toi, moi, de ce qu'ils proposent et tout. Mais à chaque fois on arrive à leur faire beaucoup de mal.
Oui, parce qu'en fait sur peu de situations, vu la fébrilité qu'ils ont derrière et vu la qualité qu'on peut avoir, on peut leur faire très très mal. Peut-être au milieu de terrain ils vont être meilleurs, mais après ça va être une histoire de rapport de force. Et là où c'est intéressant, c'est que sur le match sur l'Euro où Colomoini ouvre le score.
Je suis pas complètement inquiet. Tu me dis demain tu joues l'Espagne.
Oui, moins inquiet qu'il y a deux ans. Moins inquiet qu'il y a deux ans, et encore il y a deux ans.
Attendez, maintenant je vous propose un autre jeu rapide.
Ouais.
Dans les Coupes du Monde récentes, où est-ce qu'on a eu autant de certitudes sur l'équipe de France à l'issue du premier tour ? Par exemple, moi je me rappelle, 98, il y avait des doutes. 2006, on se qualifie à l'arrache, rappelez-vous, dernier match contre le Togo.
Bon. 2010, on n'en parle pas.
2014,
tu y as le 3-0 Honduras.
2014.
Équateur et Suisse.
Alors, 2014, le problème, c'est que tu y vas sans réelle ambition, mais la phase de poule, elle est réussie. Elle est excellente, la phase de poule.
Il y a un gros match.
Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis pas que t'es dans les favoris pour aller gagner le titre.
Tu joues le Nigeria en 8e, et après.
Tu te dis pas. Même quand tu perds contre l'Allemagne, t'as même l'impression que c'est un peu normal. Même si Benzema, à la fin, manque d'égaliser, toi.
2018. T'as le but contre l'Australie, la dernière seconde.
Non, mais tu rates le premier match, mais après c'est propre.
Non, Pérou c'est 1-0. Pérou c'est pas dingue.
Oui, mais c'est à la mode des champs de l'époque.
Oui,
c'est quand même.
Tu lances sur le match du chaos contre l'Argentine. Moi je me rappelle France-Argentine.
2022, tu pars contre la Tunisie dans un match de coiffeur.
Oui,
dernier match.
Mais 2022 c'est mieux. Danemark t'es au-dessus. Ouais. Non, pour moi 2018 tu sors contre l'Argentine. Avant le match. Je faisais pas des émissions RMC, mais à ce moment-là, je me dis oulala, l'Argentine peut te sortir.
Donc là, on est quand même dans la fourchette.
Oui, là, on est vraiment dans pas mal de certitudes qui te poussent.
Après,
à
faut pas oublier qu'on est dans un format aussi là où t'as un 16e, t'as un 8e pour arriver en quart. Donc là, le chemin il est un peu plus long. Il va avoir des matchs au coup près. Ça va être intéressant à suivre. C'est un nouveau modèle.
Encore deux petites choses. Vous dire, rappeler que là, Guy Stéphane a profité pour faire donner des minutes de jeu à des gars qui peut-être n'en auront plus. Parce que est-ce que Konaté, on le reverra ? C'est pas sûr.
Non.
Est-ce que Mateta, on le reverra ?
Non.
C'est pas sûr. Gusto ?
Non.
Même si beaucoup.
Là, je parierais pas de resto sur Gusto.
Voilà. Donc, il y a eu aussi une petite gestion là, histoire de dire voilà, vous avez aussi joué quelques minutes, les gars.
Tout le monde a joué, je crois, non ? Jimmy,
Thuram est rentré, fin de
non, Thuram n'est pas rentré, non.
Thuram n'est pas rentré.
À part Thuram qui était un peu blessé, je crois. Sinon, Akliouche est rentré. Zaire Emery n'est pas rentré. Kanté n'est pas rentré aussi, non.
Ouais. Kanté. Bon après les gardiens, évidemment.
Oui.
Ouais, c'est tout. C'est tout. Bon, voilà. Oui, Maignan, un petit mot, c'est le dernier qu'on n'a pas évalué.
Penalty arrêté.
Ah si, Thuram est bien rentré, si, c'est ce que je pensais, contre l'Irak.
Ah oui, rentré contre l'Irak.
Fin de match. Bon, bah, Maignan, là, oui. Ce soir, Maignan, il n'a pas grand chose à faire, il a arrêté un péno.
Penalty arrêté, et je pense que dans les séances de tir au but, contrairement à Hugo Lloris.
Moins de relances ratées.
Oui.
Aussi.
Ça va être une force, je pense, si on a. On a cette possibilité là en plus, même si c'est vrai que Mike Maignan cette année, que ce soit avec l'AC Milan ou même avec l'équipe de France, j'ai pas été hyper rassuré, mais en tout cas moi j'ai confiance.
Moi je veux pas m'inquiéter pour
Maignan, j'ai confiance en Mike Maignan.
Vous pensez que
de toute façon on n'a pas mieux, voilà. Il est là, il t'envoie un message fort aujourd'hui encore avec cette histoire de péno là, c'est son point fort là qui fait peur à tout le monde. Voilà, il y a des moments où il faut pas se casser la tête et se poser trop de questions. T'as personne, t'as pas de choix, t'as pas d'alternative, c'est lui, bah ça, on y va, quoi. Voilà.
La question n'a pas été posée à Guy Stéphane, mais vous pensez qu'il recevait des petits messages de Didier Deschamps sur le coaching et tout ça? Deschamps l'a laissé.
Honnêtement, j'ai même pas envie de parler de ça. C'est une journée beaucoup trop compliquée, trop difficile dans la vie de Deschamps, je veux même pas savoir.
Bon, non, mais c'était pour avoir un peu les coulisses.
Non, mais j'ai pas envie de savoir.
Parce qu'on me dit là, sur le chat YouTube, on me dit Guy Stéphane, homme de l'ombre, a voulu faire jouer les hommes de l'ombre.
Non mais laisse le chat tranquille sur ce genre de conneries là. Laisse tomber.
Moi, j'ai pas compris, j'ai pas suivi.
Non mais laisse, il y avait rien à suivre.
Rien de dramatique. Dans un instant, on est de retour pour parler du Sénégal. 32-16 supporters sénégalais, belle démonstration sénégalaise, même s'ils ont.
Eh ben là, on va en dire du bien après le premier match. Ils ont tous dit ouais, rigolo, il est trop sévère, il est trop. Magnifique le Sénégal ce soir.
Et puis Bielsa seul au monde en Uruguay. On vous raconte pourquoi dans quelques instants. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
La nuit de l'After jusqu'à 6h du matin avec les matchs à suivre. Bien sûr, vous le savez, dans 1h15, maintenant le groupe de l'Espagne, Uruguay-Espagne et Cap-Vert-Arabie Saoudite.
Uruguay-Espagne.
Oui, c'est pas mal comme affiche. Ouais.
Surtout avec ce qui se passe en Uruguay, là, je sais pas si vous avez vu, mais.
Ouais. Et puis à 5h, tôt demain matin, Égypte-Iran et Nouvelle-Zélande-Belgique. Les Belges aussi, attention.
Ouais. C'est quoi, c'est fin de soirée ça?
Pour nous, c'est 23h.
Ouais, très bien, j'aime bien le programme là. Le programme m'excite.
Exactement. En soirée tard comme ça, j'ai vu la Colombie l'autre, il y a 3-4 soirs là.
RDC-Colombie ou Colombie Ouais, Colombie-RDC.
Je kiffe la Colombie.
Ouais. Ouais.
On est très peu parlé depuis le début de la compète, mais c'est dans mes équipes.
Le duo Munoz-Luis Diaz, là.
Oh là là.
Munoz, latéral de Crystal Palace, lui va partir rapidement, lui, parce que c'est Achraf Hakimi, colombien.
Oui, évidemment, je l'ai adoré, mais après Luis Diaz, c'est un de mes joueurs préférés.
Ouais, c'est fort, c'est très fort.
Mais en plus,
Colombie-Portugal, très excitant.
T'as l'impression qu'ils sont trois. T'as l'impression qu'il y a trois Luis Diaz dans l'équipe.
Mais quoi,
il joue côté, il revient au milieu, il est parti. Je suis en mission pour mon pays.
Luis Suarez, l'ancien de Marseille, là. Pas dingue son début de tournoi. On nous a dit Sporting incroyable, il a mis 150 buts.
Déjà à Marseille, c'était pas dingue.
Ouais, pas ouf.
Écoutez, Pape Thiot. Alors, le Sénégal a gagné 5-0 contre l'Irak. On va revenir sur quelques performances dans quelques instants individuels. Mais maintenant, le Sénégal est obligé d'attendre. Donc, ils sont, on va dire.
Ouais, mais c'est une attente au salon, hein. C'est pas une attente devant la porte. Hein.
Ils se sont positionnés pour être dans les meilleurs troisièmes. Mais bon, ils peuvent se faire passer devant, on va voir.
On va attendre.
Écoutez, Pape Thiot, d'ailleurs, à ce sujet.
On a joué, il fallait gagner ce match face à une équipe irakienne aussi qui était venue vraiment pour gagner, pour espérer aussi se qualifier derrière. Mais ça s'est passé comme on voulait vraiment, parce que on a marqué beaucoup de buts et ça c'est très bien pour les joueurs et félicitations à eux. Maintenant faut attendre, parce que quand même on a 3 points et il y a d'autres matchs qui vont se jouer. Espérons que ça se passera pour le Sénégal.
Merci beaucoup, coach.
Voilà.
L'Irak venu pour se qualifier, Pape.
Oui, pas sûr.
On t'aime beaucoup, Pape, mais pas sûr de l'introduction de la conférence de presse, quand même.
Bon, en tout cas, l'Irak n'était pas éliminé avant le match.
Oui, c'était pas éliminé, mais il fallait quand même mettre 150 buts. Bah,
honnêtement, moi, ce que j'attendais, c'était le message du Sénégal qui avait quand même, par rapport à ce qu'on imaginait d'eux avant le début de la compétition, le champion d'Afrique qui vient, la Côte d'Ivoire avait fait meilleure impression, le Maroc avait fait meilleure impression. Le Cap-Vert limite avait presque fait meilleure impression. Le Sénégal était décevant. Et d'ailleurs, j'avais été très sévère. Ils avaient l'opportunité aujourd'hui de dire on n'est pas mort, la porte elle est fine, mais il y a moyen de passer. On doit battre l'Irak, certes c'est pas une grande équipe, sur le papier on gagne tous les jours, mais il ne suffisait pas de gagner, il fallait mettre pas mal de buts pour être un troisième avec une différence de buts positive, ce qui est rare, hein, parce que dans les équipes qui vont faire troisième de groupe avec 3 points, aller se faire une différence de buts favorable, c'est très compliqué. Eh bien, eux, alors que le début de match, à un moment, on s'est demandé de quelle façon ils allaient pouvoir mettre un carton à cette équipe. Certes, le carton rouge a aidé, mais petit à petit, ils ont construit ce succès très large, en plus avec des buts magnifiques. Et ils sont allés gagner 5-0. Ce qui fait que là, la suite de la compète, parce qu'il faut attendre que tous les autres matchs se jouent.
97% de chance apparemment de se qualifier.
Moi, je pense que c'est une attente au salon et avec le verre de cognac à la main et le cigare.
Selon les stats, parce que là, les Sénégalais,
c'est très très bon.
Ils sont très très chauds. Ils sont très très chauds dans les calculs.
Elles viennent d'où ces stats, de Dakar ou
selon les manifestants.
Selon la police.
Non, mais en tout cas, pour revenir sur ce que dit Daniel, moi j'avais très très peur après la première mi-temps. Au moins la première mi-temps, elle est pas bonne du tout. À 11 contre 10, je trouve que techniquement il y avait trop de déchets. Ils sont mis une frustration un peu négative. Je trouvais que notamment Sek qui a remplacé Koulibaly dans les relances, c'était pas gigantesque, ça manquait de mouvement. Et après l'ouverture du score et le carton rouge, normalement ça devait être une promenade de santé. Sur la première mi-temps, ça n'a pas été le cas. Les changements ont fait beaucoup de bien. Moi, j'aimerais quand même insister sur Pape Gueye. Quel joueur, Pape Gueye. Moi, Pape Gueye, j'aime beaucoup et je trouve qu'il est très sous-côté.
Il a une frappe de loin.
Il a une qualité de frappe. Le but de Eliman Ndiaye aussi.
Très beau. Au passage, pour moi, Eliman Ndiaye ne joue pas depuis le début de la Coupe du Monde, mais Pape Gueye, il était sur le banc, il est rentré, il a mis un coup de collier sur le match, il a dit attendez les gars, là on est dans la merde, faut qu'on aille chercher le plus de buts possible. Il a pris ses responsabilités et je trouve que ce joueur-là est vraiment sous-coté en Europe. Je le dis vraiment, il a tout pour être un très très gros joueur. Et après, le Sénégal, ouais, fait le boulot en deuxième mi-temps. Je pense que ça va suffire. Je suis content pour les Sénégalais parce que la tournure que prenait ce groupe était vraiment 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 pas beau par rapport au statut. On rappelle hein, mais ils sont champions d'Afrique sportivement, ils ont été pas dans les bureaux mais sportivement, ça aurait fait tâche en termes de crédibilité de les voir sortir de cette Coupe du Monde et force est de constater qu'avec ce format, même si on le déplore, comme pour l'Algérie, le Sénégal va pouvoir, s'il se qualifie, aller chercher un premier de groupe qui peut être abordable.
Dis-moi, avec tes nouveaux amis autrichiens, comment ça peut se passer?
Je sais pas du tout.
En souvenir du bon vieux temps.
Je sais pas du tout ce qui peut se passer, mais.
Est-ce que dans ta vie, t'as déjà mis un ami autrichien?
Non.
Mais t'es prêt à en avoir un?
Oh, non, oui, pourquoi pas. En tout cas, on peut se réunir businessment parlant, on peut se réunir à la table demain soir. Voilà, pour boire une petite gazouze.
Est-ce que quand on sait le souvenir marquant dans l'histoire du football algérien, qu'à ce match-là,
un retour de l'histoire,
que sur ce match, franchement, ça me ferait kiffer de voir que ce match se termine par un match nul, que l'Autriche passe et que l'Algérie passe.
Il aurait fallu que ça élimine les Allemands.
Une espèce de retour historique, mais ce serait hallucinant.
Il manque l'Allemagne, non.
Dans la vengeance,
il manque l'Allemagne. Ouais. Mais c'est vrai que.
Moi, à la limite, à l'époque, je trouve que c'est plus l'Autriche. C'est l'Autriche qui se couche réellement.
Ouais, donc,
parce qu'ils disent alors cousin allemand, bon, vas-y, mettez le but et après on en parle.
Donc, il aurait fallu en fait le faire avec une autre équipe pour que l'Autriche se fasse éliminer, en termes de vengeance.
Ouais, mais là, ça serait pas.
Mais je veux pas brusquer les amis autrichiens, donc je vais rien dire.
Revenons sur le Sénégal, pour le coup, c'est même pas une vengeance, c'est l'entente avec le vieil ennemi.
En tout cas, la suite pour le Sénégal peut être intéressante si se qualifie.
Amadou, bonsoir.
Ouais, bonsoir, vous allez bien?
Ça va et toi?
Non, mais franchement, mais tu sais que c'est à ça que je pensais tout à l'heure quand je regardais le tableau des troisièmes. Je me disais en fait que l'ironie du sort, ce serait que l'Algérie et l'Autriche se serrent la main, genre vas-y.
Mais je te dis que c'est ce qui va se passer.
Parce que Walid disait un truc qui était intéressant hier quand il disait en fait que ceux qui jouent en dernier ont un petit avantage sur les autres parce que
ils peuvent
attendre. Regarde le Paraguay. Franchement, Australie, ça sentait gros comme une maison.
Ils se sont serrés la main.
Et pourquoi en même temps, pourquoi leur reprocher? Est-ce que quelqu'un sur Terre ferait autre chose que ça? Et quand tu sais que c'est le seul moyen de te qualifier, moi, je ne le reproche même pas. À partir du moment où la formule t'offre cette possibilité, mais à aucun moment je n'irai blâmer l'équipe qui fait
après,
ça.
Quand t'es dans l'autre côté, c'est quand même rageant. Mais après, c'est la formule.
Tu sais, moi, j'ai toujours dit à l'époque, tu sais, quand on parlait du fameux gâteau biscuit
Suède d'Italie,
mais non, le Suède Danemark contre l'Italie, mais ok, t'as la rage, mais au bout d'un moment tu dis écoute, t'avais qu'à faire le taf avant, vu que le règlement te propose la possibilité de faire ça.
Après il y a le problème des horaires, il y a le problème, c'est aussi les horaires, le fait de savoir
à l'époque c'était en même temps.
Exactement, à l'époque c'était en même temps.
Au final, qu'est-ce que tu veux dire, quoi?
Ouais,
Tu penses à ta peau dans une compétition. C'est toi qui dois te qualifier. Tu vas pas risquer de pas te qualifier pour soi-disant jouer le grand sportif et tu vas lâcher les chevaux en attaque et te prendre un contre. Mais enfin, tout le monde a fait du sport. On sait bien que l'important c'est de passer.
Bon, Amadou, bah oui, sur le match là, tu retiens quoi?
Bah moi je retiens, c'est il a fait les changements qu'on attendait. En fait, il a fait exactement.
Il a sorti Koulibaly.
Tout ce qu'il n'a pas fait sur les deux premiers matchs, moi j'avais dit à mon frère, en plus avant le match, hein, j'ai dit à mon frère que Koulibaly, je pense que de toute façon c'était acté, je pense que la moitié des Sénégalais, plus de la moitié des Sénégalais voulaient le voir sur le banc. C'était pareil pour Pape Gueye, moi j'avais dit justement que je l'avais trouvé très bon contre la France, mais moins bon contre la Norvège, et j'avais demandé à ce que Habib Diarra prenne sa place. J'avais demandé à ce que Illiman Diaye soit titulaire, mais finalement il est rentré, mais parce que je pense que franchement 7 minutes en temps de jeu sur deux matchs, je trouvais ça scandaleux. Hassan Diaou aussi, franchement, qui a fait une grosse saison avec Homme, qui est très bon, qui a des très bonnes qualités, il l'avait pas fait rentrer, là il l'a fait rentrer 10 minutes. Mais Nico Jackson, c'est pareil, j'avais demandé à ce qu'il soit remplaçant. Moi je voulais voir Bamba Dien, qui avait bien terminé avec, qui avait bien fait une bonne deuxième partie de saison avec Lorient. Je voulais voir Bamba Dien, mais en tout cas il a fait des changements que les gens attendaient, et aussi même les changements en deuxième mi-temps, il les a fait beaucoup plus rapidement, parce que j'étais tellement énervé contre le match contre l'équipe de France. Le premier changement, il arrive à la 72e, 73e, c'est 5-6 minutes après le premier but de Mbappé, et je me suis dit, mais t'as 5 changements, t'as de la chance d'avoir un énorme effectif, tu fais partie des effectifs les plus fournis en Afrique, pourquoi t'attends à 15-20 minutes de la fin d'un match pour faire ton premier changement?
Surtout quand on voit comment la Côte d'Ivoire utilise son banc à bon escient depuis le début de la saison, depuis le début de la Coupe du Monde, et que le Sénégal, ils ont des vraies gâchettes. Quand t'as Ibrahim Mbaye sur le banc, quand t'as Ndiaye, quand t'as Hassan Diouf qui fait une superbe saison, franchement, c'est vrai que c'est assez étonnant. Surtout qu'en plus, il y a des joueurs qui font pas un gros début de Coupe du Monde. Tu dois les challenger. Et moi,
Walid, mais t'as 100% raison. Mais même Sadio Mané, moi j'avais demandé à ce qu'il soit sur le banc. J'ai dit que il fallait.
Il a trouvé bon ce soir.
Tous les cadres. Bon, il a fait ce qu'il a. Il a fait. Bon, il a fait un match moyen, mais il a pas. Ça n'a pas été du grand Sadio Mané. Mais voilà,
il est dans le coup du rouge. Mais que le Sénégal puisse se passer un petit peu de ses légendes, ça veut dire que le réservoir est grand. Après, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre. Les décisions sont pas faciles à prendre. Tu sais, avec les légendes, c'est toujours. Mais ça, il y a pas que le Sénégal. Il y a beaucoup de sélections qui peuvent souffrir de ce genre de problème-là. Mais toutes les sélections n'ont pas le réservoir de joueurs. Là, tu l'as au Sénégal. Après, c'est à Papio de faire son taf.
Et il y a un joueur aussi qui est important, et on l'a vu dans cette compétition là, on aurait eu besoin de lui. Et d'ailleurs, moi je dis, c'est bien fait pour la communauté sénégalaise qui disait on veut pas de lui, etc. Moi c'est le cas Malang Sarr qui termine meilleur défenseur de Ligue 1. On entend des gens se plaindre parce que il aurait choisi d'abord l'équipe de France. Dans une interview, il avait dit d'abord qu'il attendait l'équipe de France, et puis finalement à 26 ans ou à 27 ans, il a dit qu'il choisissait le Sénégal. Il a fait des appels du pied pendant toute la saison depuis le mois de septembre en disant qu'il attend.
C'est
le
pas
Sénégal,
des appels du pied. Il a annoncé qu'il voulait jouer avec le Sénégal.
Voilà, qui voulait jouer avec le Sénégal.
Il a fait téléfoot, il l'a dit. Ouais.
Et franchement, moi je trouve que il avait sa place, mais.
Oui, mais c'est un débat compliqué. C'est un débat compliqué parce que déjà, il faut le dire, mais au sein du groupe, il y a eu des questionnements autour du cas Malang Sarr. Parce que, et c'est pour ça qu'il ne le prend pas, parce que Malang Sarr est le meilleur défenseur avec Niakate cette saison, sénégalais.
Sélectionnable. Imagine la charnière centrale qu'on aurait eue avec Niakate.
Bien sûr. Et maintenant, le problème, c'est qu'il n'est pas sportif. Il n'est pas sportif. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas accepté l'interview qu'il avait fait avec Mohamed Bouafi à l'époque. C'est sur Breaking News, en disant qu'il voulait l'équipe de France, etc.
Regarde le Maroc avec Issa Diop. Issa Diop, rappelle-toi l'interview qu'il a fait dans Canal Football Club, même devant Habib
oui, mais Amadou,
qui lui pose la question.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Issa Diop, il dit, ah non, mais moi, ce sera soit l'équipe de France, soit rien du tout. Finalement, il attend 28 ans devant. Il va avec le Maroc. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils avaient besoin d'un défenseur. Ils ont ravalé leur fierté. Nous, on est incapables de ravaler notre fierté pour nous dire que on a besoin de ce joueur. Ce joueur-là, il est très important. C'est un très bon défenseur qui peut nous aider à aller très loin en Coupe du Monde. Parce qu'en fait, pour aller dans une.
Allez, réponse de Walid et après, il faut qu'on s'arrête.
Il est chaud, en tout cas. J'aime bien. Il est chaud. Il s'arrête pas, Amadou. Il s'arrête pas, Amadou. Il est très chaud.
Et on remercie, bien sûr.
Amadou, c'est un débat qui est très compliqué parce que Koulibaly a tellement fait pour le Sénégal. C'est lui qui donne le but contre l'Équateur il y a 4 ans pour te qualifier en 8e de finale. C'est la légende de cette équipe. C'est malheureusement, comment tu fais toi si tu mets Malang Sarr titulaire, parce que Malang Sarr est meilleur que Koulibaly sportivement aujourd'hui, hein. Il y a pas photo. Comment tu fais si ton capitaine tu le mets sur le banc, tu sélectionnes Malang Sarr et que Malang Sarr il se trouve sur cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'on aurait dit à ce moment-là? Ah, vous imaginez, on fait jouer un opportuniste qui a choisi le Sénégal au rabais par rapport à l'équipe de France. C'est compliqué, c'est des débats sincèrement qui sont pas simples. Même moi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect sportif, mais c'est facile à dire aujourd'hui que Malang Sarr doit être titulaire avec le Sénégal. Moi, ce qui me dérange plus, c'est surtout Mamadou Sarr de Chelsea, qui était à Strasbourg, qui lui a fait une fin de canne où il a été très très bon, notamment contre l'Égypte et contre le Maroc, qui là est préféré à Asec, qui même s'il est dans le coup du premier but, je trouve pas fort défensivement. Et comment ça se fait que Sarr n'est pas là? Pourquoi il est pas titulaire alors que lui, il représente normalement le présent et l'avenir du Sénégal et qu'il a fait un choix fort en ne choisissant pas l'équipe de France et en choisissant le Sénégal? Ça, moi, ça m'interpelle un peu plus.
Merci Amadou. On devait parler de Bielsa, mais Nico Jamin va s'en charger, ouais. puisqu'il a un avant-match d'une heure pour raconter comment Valverde et les autres semblent disqualifier leur sélectionneur.
Exactement, on ira sur ce match, ce stade. Edgar Grelo nous attend. Espagne-Uruguay, les compos sont déjà tombés. On va prolonger le débat équipe de France. Flo n'est pas d'accord avec Daniel sur le fait d'assumer le déséquilibre en bleu. On va en débattre ensemble. Restez avec nous tout de suite.
RMC, l'after foot. Intégrale Coupe du Monde.